Bonjour, on est en compagnie de Michel Virard, président de l'Association Humaniste. Merci d'être avec nous.
Bonjour, Olivier.
Donc, vous êtes président de l'Association Humaniste, comme je viens de le dire, située sur le plateau Mont-Royal. Quel est le mandat de votre association, votre mission?
Fondamentalement, c'est le développement de la pensée critique au sein de la population du Québec, ce que nous faisons par divers moyens.
Donc, ne pas se faire avoir par les beaux parleurs, c'est bien ça?
C'est pas mal ça, oui. Parce qu'il y a beaucoup, non seulement de désinformation, mais de rhétorique douteuse, ce qu'on appelle des sophismes, c'est-à-dire oui. des faux raisonnements.
Des entraves au dialogue.
C'est pas seulement des entraves au dialogue, il y a ça aussi, bien sûr, qui nous intéresse. Mais simplement le fait de déclarer certaines choses comme étant des vérités évidentes, alors qu'elles ne sont pas du tout évidentes, justement.
Puis sur votre site web, j'ai vu, c'est écrit « Association humaniste par athées et agnostiques ». Donc, est-ce que vous dénoncez certains discours religieux?
C'est pas d'une façon active, mais nous demandons à nos membres de se déclarer sans croyance au supernaturel, ce qui évidemment exclut tout un paquet de choses, donc pratiquement les religions. C'est vrai que nous sommes la première association au Québec qui était formellement athée et qui est en fait une association d'athées et d'agnostiques. Peut-être que certains voudront savoir la différence.
Oui, bon. Quelle est la distinction entre athée et agnostique?
L'agnosticisme est une position philosophique qui dit il n'est pas possible de démontrer l'inexistence de quelque chose. Il y a quelques exemples assez frappants. Mais alors que l'athéisme, dans le fond, est une croyance. C'est la croyance que non seulement les divinités n'ont très peu de chances d'exister, mais pour nous, elles n'existent pas. Mm-hmm. Point. Voilà.
Puis donc, c'est ça. Est-ce que les témoins de Jéhovah font partie de ces beaux parleurs? Je vous donne un exemple,
mais
ça peut être aussi les complotistes qu'on voit avec les réseaux sociaux de nos jours aussi.
Oui, alors dans notre premier article, en fait, on dénonce non seulement la croyance au supernaturel, mais on dénonce aussi l'imposition de dogmes, c'est-à-dire de croyances rigides qui ne peuvent même pas être discutées. Donc tout ce qui est dogmatique, et ça inclut évidemment certaines formulations politiques qui peuvent être dogmatiques. Et donc, oui, nous avons cette réticence à accepter tout ce qui ne peut pas être raisonnablement montré, démontré.
Fait que les théories du complot qu'on entend souvent
Exactement.
Parler, je sais pas moi, la terre plate, les tours jumelles, les vaccins, ça fait partie de tout ça?
Bien sûr que ça fait partie de tout ça. D'ailleurs, nous sommes très liés aux sceptiques du Québec. Les sceptiques font leur... souvent dans leurs conférences au Centre humaniste du Québec et chez nous. Et moi-même, j'ai été administrateur avant de créer avec Bernard Cloutier et Normand Bayargeon l'Association humaniste du Québec. J'ai été administrateur des sceptiques du Québec. Vous savez que les sceptiques du Québec avaient à l'époque, moi c'était à mon époque, Jean-René Dufort comme animateur. J'ai animé des soirées sceptiques avec Jean-René Dufort, là où il a littéralement appris son métier d'amuseur public.
Eh bien, il est sympathique comme il est à la télé, M. Dufort?
Ah, il n'a pas changé de ce côté-là.
Parfait. Quelle action concrète l'Association humaniste fait pour protéger les gens de ces différents discours là, qu'on a énumérés?
Bien, d'abord, d'apprendre à penser et d'apprendre à demander des renseignements, à demander, à insister sur « mais c'est quoi vos sources ? C'est quoi, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce raisonnement ?» On appelle ça de l'épistémologie de rue. C'est-à-dire que vous demandez à celui qui vous affirme quelque chose qui peut être une... que ce soit un dogme religieux ou bien une conspiration, vous lui demandez « mais oui, mais comment vous êtes arrivé à ça ? Comment vous faites pour arriver à cette conclusion ?» Et donc, notre but, c'est d'instiller le doute, en fait, et de dire aux gens « réfléchissez deux fois, là
». Puis donc, c'est ça, ce que c'est important de varier, ces sources d'informations aussi, j'imagine.
Bien sûr, on touche beaucoup de sujets. Évidemment, nous sommes aussi de fervents soutiens de la laïcité au Québec, et nous avons... En fait, outre la laïcité, nous avons soutenu directement et financièrement l'association québécoise de pour mourir comment pour le droit de mourir dans la dignité, la QDMD. Qui a été en fait fondée en partie par certains de nos membres. Oui. Donc vous voyez cette constellation, AQDMD, Sceptique du Québec, Mouvement laïque québécois également, se retrouve très souvent au Centre humaniste, en plus de l'Association humaniste du Québec elle-même, qui elle fait des conférences et des ciné-clubs et des ateliers.
Puis vous parliez d'instiller le doute dans l'esprit de ces gens-là. Est-ce que ça fonctionne assez bien? Parce que c'est souvent des gens qui sont très campés là, dans leur position.
Non, ça ne fonctionne pas toujours, ouais. C'est sûr. Il y a une... Il faut voir que remettre en cause des croyances profondes, c'est un phénomène qui va demander des années, en fait. Mm-hmm. Si vous faites en sorte que quelqu'un doute à un moment donné de sa croyance religieuse, par exemple, il ne va pas abandonner ses amis dans le cercle religieux tout de suite. Ça va y prendre des années. Moi, je dirais typiquement, ça prend 2 ans avant que les gens disent « Ok, là, ça commence à faire, j'arrête ».
Parce que c'est profond, justement. Comme
parce
vous
que c'est profond,
c'est long,
oui. Et beaucoup pensent que ça fait partie de leur identité. Ouais. Je vous signale que si vous manquez d'identité et que vous êtes agnostique ou athée, rejoignez les humanistes du Québec. Ils vont vous donner une identité, mais avec une belle carte même, qui s'appelle Humanistes du Québec. Donc, oui, c'est important. Les gens ont une identité. Beaucoup d'athées, de non-religieux au Québec sont des gens qui ont cessé de croire dans la valeur, on peut dire, de la religion organisée, mais qui continue d'avoir des croyances en un au-delà, en une divinité, qui peuvent avoir une religiosité très privée, si vous voulez. Mais ces gens-là sont des bonnes personnes aussi. C'est que nous avons dû nous battre pendant longtemps, ouais, pour le préjugé que si vous êtes un athée, vous êtes forcément un vaurien, un galopin, n'importe quoi, sauf quelqu'un de respectable. Ça a été quand même notre bataille. Je peux vous dire que lorsque on a créé l'association, on a eu des appels.
En quelle année ?
2005. En 2005, à partir de 2005, on a des gens qui nous appellent pour nous dire qu'ils sont dans un milieu religieux, ils sont les seuls à penser que ça tient pas la route et ils sont malheureux. Et ils nous appellent, je vous assure, ils ont les larmes dans les yeux, de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à douter en fait de toutes ces choses religieuses qu'on leur a imposées depuis leur enfance très souvent.
Puis le travail en amont pour combattre ça, j'imagine, ça se fait à l'école, ça se fait via l'éducation, bâtir un esprit critique, c'est bien ça?
Et bien sûr. Et alors, nous avons la joie, je peux le dire aujourd'hui, d'avoir découvert que le mot « pensée critique » est maintenant imprimé dans un des manuels scolaires pour le nouveau cours culture et citoyenneté québécoise. C'est une chose que nous avions demandé en particulier au député Roberge avant même qu'il soit ministre.
Ouais, l'ancien ministre de l'Éducation.
Exactement. Ouais. Et qui nous a effectivement dit le cours ECR va être abrogé, vous le promets. Et il l'a tenu promesse, effectivement.
Bon, mais tant mieux. Merci à Monsieur Roberge pour ça. Mais est-ce que les écoles en font assez en général, vous trouvez, pour justement instiller
J'espère qu'ils vont en faire plus. Ouais. Mais nous avons soutenu, par exemple, toujours ce qu'on appelle la philosophie pour les enfants. C'est un bien grand mot pour, en fait, un entraînement, justement, à penser correctement. Et ça, c'est quelque chose que nous continuons de soutenir.
Puis un autre fléau vis-à-vis de tout ça, c'est les réseaux sociaux, bien entendu.
Oui.
L'algorithme qui permet, j'utiliserais même le mot endoctriner, quand on consomme le même type de source d'information, qui va amener les gens à avoir une vision tunnel sur un sujet en tant que tel. Comment est-ce que vous combattez ça?
Eh bien là, j'avoue qu'on est un peu court au niveau des armes pour se battre là-dessus. Nous avons évidemment nos propres sites, mais dans la mesure où ils ne sont pas nécessairement fréquentés par les mêmes personnes que ça, qui sont sur ces chambres d'écho, c'est très difficile pour nous de les atteindre. Donc là, on veut pas, il faudra l'aide d'une autorité gouvernementale pour pouvoir régler ce genre de problème. Je ne vois pas autrement.
Mm-hmm, ouais, c'est parce que c'est tellement un gros acteur, les réseaux sociaux, puis ouais. C'est effectivement difficile.
Il est possible. Et il y a eu une solution qui était partielle, mais qui n'était pas si mauvaise, qui était par exemple sur Twitter. À un moment donné, on avait sur Twitter, automatiquement, sur des propos qui étaient controversés, il y avait un lien sur une discussion sur ce sujet particulier pour montrer que c'était pas du tout certain que ce qui était annoncé dans ce post, dans ce message, était vrai. Donc il y avait une sorte de mécanisme automatique de bon, où, c'était pas de la censure, mais c'était aller voir ailleurs aussi. Mm-hmm. Et je pense que c'est peut-être une voie de solution qui est insuffisamment explorée.
Twitter, donc, qui est nouvellement X, ça oui. Porte un nouveau nom. Puis Twitter, justement, c'est intéressant que vous en parlez parce que ça peut, justement, donner des fausses nouvelles.
Ben,
en fait, surtout les réseaux sociaux, j'ai l'impression.
Plus, vous avez des acteurs paragouvernementaux, oui. Voire gouvernementaux, tels que la propagande russe, qui sont infiltrés là-dessus et qui vont effectivement faire promouvoir des fausses nouvelles.
Mais j'ai vu, il y a quelques mois ou semaines, une fausse nouvelle d'ailleurs que je crois qui venait du réseau social X concernant une Bugatti achetée par la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était absolument faux, puis je pense que c'était Radio-Canada qui l'avait rapporté.
Ah oui,
donc c'est des genres comme ça, exact. Puis oui. C'était pas juste de la Russie, là, je pense à peu près de tout le monde là, à peu près tout le monde peut instiguer des fausses nouvelles sur n'importe quel réseau social.
Il n'y a pas de coût à lancer des fausses nouvelles sur Internet actuellement. Donc, tant qu'il n'y aura pas de coût, ça va continuer.
Tout à fait. Vous parliez un peu de vos ressources tantôt. J'ai vu des ciné-clubs, conférences, salles de spectacle, des ateliers. Parlez-nous un peu de ça. Comment ça fonctionne?
Ben, écoutez, ciné-club. Dernier film qu'on a passé, c'était un film sur l'enlèvement d'un enfant juif par le Vatican. Ça vous donne une idée du ton. Les films qui ont eu le plus de succès, c'est Le procès de Galilée, par ailleurs.
OK.
Ça a énormément de succès à chaque fois que je le passe. Les gens apprécient beaucoup. C'est une très belle pièce de théâtre qui avait été créée et qui a été filmée, en fait. Et on va probablement la repasser. Il suffit que quelqu'un en fasse la demande et je la repasse. Donc, ouais. Les conférences, ça touche pour moi le sujet. Ça dépend. Les conférenciers, évidemment, on a eu déjà Normand Baillargeon, puisqu'il était aussi un des cofondateurs. Ce que nous avons souvent, c'est sur des sujets philosophiques, soit sur des sujets politiques, soit sur des sujets concernant la science. Donc il y a toutes sortes de... Il faut aller voir en fait sur notre site web les prochains événements. Le prochain événement, en fait, c'est samedi.
Okay.
On a nos agapes. On a tous les trois mois, on a un souper, un potluck, comme on appelle,
okay.
Et qui rassemble en fait nos membres qui sont dans la région de Montréal, évidemment. Mais on a des membres partout au Québec,
ouais.
Mais
la majorité est
à Montréal. Et donc, on aura l'occasion de se rencontrer et de s'amuser ensemble. À ce moment-là, on s'amuse bien.
Tout à fait. Eh bien, monsieur Michel Virard, président de l'Association humaniste, merci d'être passé.
C'est bien. Merci de m'avoir accueilli. C'est sympathique.
Au plaisir.
Au plaisir.